Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut, salut! On est le jeudi 18 août 2022 et vous avez eu l'excellente idée de lancer un épisode de Génération Podcast. En attendant la rentrée, dans quelques semaines, je vous propose quelques épisodes sur les métiers du podcast. Et aujourd'hui, c'est Nicolas Parodi, producteur de podcast chez Son et Merveille, qui avait réalisé l'épisode sur les métiers du podcast avec moi, il y a quelques mois, qui s'empare du micro pour dresser le portrait d'une ingénieure du son devenue compositrice de podcast. Il s'agit de Solène Moulin. Solène Moulin, anciennement chez Binge Audio, a notamment composé la musique de Camille et du Cœur sur la table. Aujourd'hui, Solène se consacre à la réalisation de son album, mais vous allez voir, elle a énormément de choses à partager sur la musique de podcast. Allez hop, Génération Podcast Summer School, c'est maintenant.
Salut Solène.
Salut Nicolas.
Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais, parce que j'ai l'impression que tu as quand même plusieurs casquettes.
Un peu, ouais. Donc voilà, à la base, je suis ingénieure du son et puis je me suis orientée petit à petit vers la musique. Donc actuellement, on peut dire que je suis réalisatrice et compositrice. J'ai un projet musical que j'ai depuis des années, en fait, et qui n'arrive pas à voir le jour. Ça fait 5 ans que j'ai écrit les premières maquettes et tout. Ça commence à faire loin. Et du coup, là, voilà, je suis en train d'enregistrer un petit album avec un pote. J'aimerais bien que ça puisse voir le jour parce que du coup, là, j'ai fait de la musique pour Le Cœur sur la Table, notamment. Mais j'ai pas eu le temps, en fait, de faire la mienne aussi, la musique que j'aimerais faire. Non pas que j'aime pas ce que j'ai fait sur Le Cœur, mais c'est que j'ai un style musical un peu plus sombre, musique électronique avec de la voix et tout. Et voilà, j'aimerais bien que ce projet puisse voir le jour. Et tout en étant, tout en travaillant, j'ai un peu de mal à allier les deux. Donc là, je m'accorde une petite pause pour essayer de sortir ce fichu album.
Au départ, toi, t'es musicienne pur jus. Comment ça se passe?
Absolument pas, non, pas du tout. À la base, moi aussi, je suis ingénieure du son. J'ai fait un BTS audiovisuel à l'INA et du coup j'ai fait un BTS là-bas option son en alternance à RFI, donc Radio France Internationale, là où j'ai notamment rencontré Quentin Bresson qui bosse à Binge Audio et qui m'a un peu plus tard appelé pour venir travailler avec lui. Donc non, à la base, moi voilà, j'étais réalisatrice chez RFI. Ensuite, j'ai fait un peu de post-production. Donc j'ai travaillé dans une boîte de post-prod pour faire de la pub et du cinéma, du court-métrage et du dessin animé et de cinéma d'animation. Donc là, j'ai surtout fait du sound design et du mixage. Donc c'est à la base, voilà, je suis vraiment ingé son. J'ai fait quelques piges à droite à gauche avec de la prise de son de documentaire, des petits courts-métrages, ce genre de choses. Et la musique, c'était plutôt en parallèle. J'ai voulu explorer ça. J'ai bossé un peu à l'époque, il y a quelques années, avec Thérapie et Taxi pour arranger leur premier album. Puis il y avait mon projet qui traînait. Je me considérais pas musicienne jusqu'ici. Et puis il y a eu tout d'abord c'était le podcast de Camille, qui est un autre podcast de Binge Audio sur l'hétéronormativité. Et avec la journaliste, on imaginait ce programme, on a beaucoup discuté et moi j'avais une idée en fait très claire de ce que la musique du générique aurait pu être, et je me suis dit je vais essayer de le faire et puis on va voir, sachant que j'en avais jamais fait jusqu'ici. Et ça a bien fonctionné avec la voix de la journaliste et le projet. Et du coup voilà, ça c'était le premier générique que j'avais composé. Et du coup 2-3 ans après est arrivé Le Cœur sur la Table et Victoire, et elle m'a dit tiens, est-ce que ça te dirait de réaliser Le Cœur, de faire la musique? Et je me suis dit oulala, je suis pas musicienne, est-ce que c'est pas un peu trop gros? Mais je me suis quand même lancée dans cette affaire. Et puis en fait, petit à petit, j'ai l'impression que je deviens une compositrice. Et du coup, c'était un peu mon rêve de gamine. Donc, euh, Donc voilà. Mais je suis ingé son, normalement.
Mais alors, du coup, c'est drôle parce que tu dis que tu n'étais pas compositrice musicale. Enfin, quand Victoire vient te demander de faire la musique sur le cœur sur la table, et alors que tu avais déjà fait le générique du premier podcast dont tu as parlé.
Oui, mais c'est pas mon travail dans la vie, quoi. J'avais pas d'autres exemples à proposer. J'ai pas de book non plus. Donc voilà, c'était un peu audacieux de sa part de miser sur moi, tout en sachant que c'était un documentaire qui allait durer un certain nombre d'épisodes et qu'il allait falloir beaucoup de musique. À l'heure actuelle, j'en avais fait qu'une seule. Voilà, c'est pour ça que moi-même, j'avais du mal à me considérer comme étant une compositrice parce que j'avais pas assez de acquis, et aussi les gens autour de moi me considéraient pas aussi forcément comme une musicienne.
Pour prendre l'exemple du cœur sur la table, quand Victoire Toyon vient te voir et te propose ça, bon, une fois que tu passes la première étape qui est de se dire « Ouh là là, mais je suis pas musicienne, comment je vais faire ?» une fois que tu te lances, en fait, tu peux nous parler du process, comment ça se passe, comment se passe la discussion avec elle pour se mettre d'accord? Est-ce que tu lui soumets plusieurs dans ton coin, tu les travailles à partir de ce que tu connais du projet ou...
Bonne question. Eh bien, il y a un sacré historique affectif aussi dans cette affaire, notamment avec Victoire, par exemple. C'est quelqu'un avec qui on est plutôt proche et ça faisait longtemps qu'on discutait de ce projet. Donc, j'avais bien compris les enjeux de ce qu'elle avait envie de faire. Je connais bien aussi la personne. On a beaucoup partagé de ses influences musicales. Je lui ai demandé de me faire une playlist des sons qu'elle aimait bien, des petits instruments qu'elle aimait bien, lui demander de m'expliquer dans quelle ambiance elle aimerait être. Donc il y a quand même une grande conversation par rapport à ça. Donc voilà, elle m'a donné des artistes, des moods en fait qu'elle aimait bien. Donc moi, je me suis fait une grosse banque de matière en fait, de sons, de sensations. À partir de là, dans son brief, c'était clair que c'était de la musique électronique un peu qu'elle avait envie, en tout cas de la musique acoustique, quoi, à 100%, parce que pour elle, les nappes de musique, les notes longues, les textures de synthétiseur, ça pouvait être bien pour accompagner une voix. Vu que c'est pas comme une guitare électrique qui est dans des fréquences hautes, voilà, ça marche pas avec une voix. Donc là, c'était vraiment des matières intéressantes pour essayer de faire une espèce d'échange entre voix, musique, sans que l'un prenne trop sur l'autre. Et puis ensuite, pour les musiques en tant que telles, une à une, il n'y a pas trop eu d'approbation à chaque track, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on écrivait les épisodes, on enregistrait les voix, on faisait notre micmac avec tous les interviews. Et quand j'avais un espèce de squelette, un ours, en fait, de ce qu'allait être notre épisode, là, je me mettais à composer sur la voix.
D'accord.
Donc, voilà, c'était pas en mode, j'avais pas fait un stock de chansons à l'avance qui allait aller sur le podcast, mais à chaque épisode, voilà, j'étais en écoute des émotions et j'essayais de composer sur la voix. Donc, c'est passé un travail un petit peu long et réverbatif et proche d'être fou, c'est-à-dire de mettre en boucle la voix de Victoire dans mes oreilles. Donc, ouais. Vraiment de créer une boucle tout temporelle et de la lire en boucle et de jouer sur mes instruments en même temps jusqu'à ce que je trouve les trucs que j'aime bien, qui s'associent bien, où je me dis que là, ça va aider pour l'émotion ou pas. Donc, c'est ce que j'ai fait pour les premiers épisodes. Après, je dois avouer que je me suis dit que j'allais quand même réutiliser mon travail que j'avais fait dans d'autres épisodes, parce que autrement ça faisait de 1 une masse de composition énorme, et puis aussi de quand même de garder un fil rouge, de garder des choses qui reviennent, voilà. Donc petit à petit, j'ai adapté aussi mon jeu, mais quand même le but, c'était de faire de la composition originale directement sur le propos. Donc en fait, ça a été rare qu'elle me... alors, de temps en temps, elle m'a dit « là, c'est un peu trop intense » ou « là, c'est trop ci » ou « c'est trop ça ». Mais il n'y a pas eu tant de écoute des morceaux en amont. Est-ce que c'est eux qui marchent le mieux avec la musique ? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Oui, c'est ça. Tu n'as pas construit... en avance sur la base de les émotions qu'elle voulait pour l'ensemble de la série. Voilà, c'est ça, non, c'était épisode par épisode.
Parce que de toute manière, on sait très bien que quand on a une intention pour un documentaire ou un mood, on sait très bien qu'en fait, au fil du temps, ça va pas être la même chose qu'on avait imaginé. Que en fait, on pense que les interviews qu'on va prendre, ça sera elle, mais on se rend compte que, bah en fait, on va plutôt prendre la voix de machin. Et en fait, tout change hyper hyper vite. Et du coup, pour moi, le brief, il allait forcément prendre des virages en fait. Parce qu'en fait, on savait pas du tout où est-ce qu'on allait aller aussi.
Ouais.
Donc, je me suis dit, on va faire au fur et à mesure, step by step, émotion par émotion, instant par instant. Et ça a été la technique de composition dans ce cadre-là. Évidemment qu'on peut aussi se dire, on sait très bien où on va, on cadre tout à l'avance, on compose un pack avant. Et ça, c'est des choses qu'on a fait. Hein. Là, c'est pas moi qui ai composé, mais... un documentaire que j'ai réalisé il y a quelques temps, qui s'appelle « À la recherche de Jeanne du coup, on a demandé... Bah, du coup, vu que je m'occupe aussi de la coordination musicale chez Binge Audio, j'ai demandé à un compositeur de me faire un lot, en fait, d'instrumental. Et là, tout était effectivement bien réfléchi à l'avance, avec un brief.
Et donc là, le réalisateur a plus qu'à prendre ce qu'il a dans le stock que vous avez constitué à l'avance, voilà. et aller placer sur chacun des épisodes en fonction de ce qu'il veut.
Oui, donc ce qui est hyper agréable, en fait, d'avoir un sacré stock de sons à mettre. Alors, soit il y a un seul thème et en fait, on peut décomposer les thèmes. Donc, on peut aller venir chercher instrument par instrument. On veut juste le piano, juste un peu de guitare, juste un peu de batterie. En fait, on décompose le thème et on vient voilà le nouer avec le propos. Ça, c'est très agréable. Mais c'est pour ça que c'est toujours... C'est chouette qu'il y ait un compositeur et un réalisateur, parce que le réalisateur, il a le recul et il se dit, en fait, je préfère ça. Nous, on s'est embourbé dans quelque chose d'un peu plus, un peu plus fou. Et on s'est dit que la compositrice, en fait, sera la même personne qui réalise. Et du coup, bon, bonne réponse ou pas, je ne sais pas. On a essayé.
Oui, parce que du coup, le risque, c'est que tu as tellement de liberté... que tu t'embourbes.
Exactement ce qui s'est passé. Exactement, ouais. C'est que en fait, on peut prendre toutes les directions. On n'a pas écrit à l'avance ce qu'on avait envie non plus. Donc là, c'est une infinité de choix à prendre, en fait. Et c'est là que ça a pris beaucoup de temps et ça a été un petit peu dur. C'est qu'effectivement, moi, je trouve ça super de préparer à l'avance la musique qu'on va avoir. Mais en même temps, j'avais envie d'essayer pour une fois de voir qu'est-ce que ça donne de la musique composée vraiment... sur mesure.
Au cas par cas, ouais.
Voilà, on avait envie de faire du sur mesure, voilà, juste pour voir. Et la conclusion, je pense que ça a plutôt bien marché, mais peut-être que c'est chouette, c'est, il faut quand même. Après coup, je me dis, c'est quand même mieux de séparer un peu les taffes et que le compositeur soit le compositeur et le réal.
Quand tu es dans le rôle de la réalisatrice, justement, et que tu te sers d'un stock, d'une bande musicale, d'une BO que quelqu'un a faite pour toi, avec les différents thèmes, tu peux quand même réajuster, tu as quand même un petit peu de liberté pour réarranger comme tu veux. Est-ce que la tentation est grande de pas d'en mettre trop, de puisque c'est là à disposition et que t'as pas à le produire, de te servir de ça 10 fois trop finalement par rapport à ce que demande le podcast?
Difficile question.
Il y a toujours cette question de on veut toujours en mettre trop, tu sais.
Ouais.
Alors que je pense qu'il y a des moments dans un podcast où il y a pas besoin quoi.
Ouais. Je pense que j'ai une personnalité de personne qui en fait trop. Donc voilà, c'est clair.
T'es pas la bonne personne à qui poser la question alors.
Je vais retourner la question dans l'autre sens. J'ai trouvé ça plus difficile dans le cas où c'est toi-même qui compose, parce que tu te dis tout le temps j'ai pas fait assez, j'ai pas composé assez. Lara, ça manque un peu d'énergie. Je vais recomposer un truc. Et c'est difficile de voir la fin. Alors que quand t'as un stock à l'avance, t'as un nombre limité aussi d'éléments. Au bout d'un moment, c'est pas illimité non plus. Et tu te dis bon, j'ai que ça. Je trouve que ce morceau il marche pas très bien ici. Bah je le mets pas et en fait c'est très bien sans.
Ouais, d'accord.
Voilà, je suis plus. Alors que quand c'est toi-même, tu te dis ah, je pourrais bien recomposer encore un truc, et c'est la chaîne infinie, quoi. Alors que quand t'as le stock de quelqu'un, je trouve que, et du coup tu chéris. En tout cas, moi j'ai eu la sensation de chérir un peu plus les instrumentales des autres et de me dire il est très beau son thème, je vais essayer de le garder que quand c'est très important, des moments importants. J'ai l'impression d'être plus dans la subtilité. Mais après, la question, c'est aussi comment ne pas en faire trop et en mettre partout.
Ouais.
Et ça, c'est une vie de taf, je pense. Moi, je retiens vraiment comme leçon d'en faire de moins en moins. Pas de moins travailler, pas de faire que ce soit moins beau, mais juste de laisser parler les silences, les blancs, les respirations. Et je sais que ça, c'est... Au début, on a beaucoup de mal parce qu'on se dit que réaliser, c'est faire du bruit.
Ouais.
On se dit que réaliser, c'est mettre des éléments, c'est avoir plein de pistes, c'est que quand quelqu'un écoute, ils se disent « Ah, il y a eu du travail en son, en fait. Ah, il y a eu une accumulation de choses, il y a du sound design, il y a des ambiances, il y a des voix partout, il y a plein de musique partout. » Et tu te dis que là, il y a eu une réalisation, alors que en fait, la réalisation, c'est la finesse de ne pas se faire entendre aussi.
Ouais,
c'est la finesse d'avoir tellement bien fait son taf qu'on ne se dit même pas que quelqu'un a fait le taf. Et ça passe aussi par le fait de respecter les émotions en ne les accompagnant pas forcément de musique. Ne pas en faire trop, quoi. C'est comme dans un film, il y a une scène triste et qu'ils sortent les orchestres et les violons et tout. Bah en fait, c'est trop facile. On en a marre que les émotions tristes soient accompagnées d'une double musique triste pour bien dire « Regarde, c'est bien triste ». Et je trouve que c'est là que c'est compliqué de pas en faire trop.
Moi, j'avais entendu que souvent dans un témoignage, dans une histoire, il y a toujours deux émotions en fait, ou au moins deux émotions. Il y a l'émotion principale, tu vois, que véhicule la personne qui est en train de parler, mais il y a toujours quelque chose qui est derrière, une autre émotion, et que la musique sert beaucoup pour rehausser celle-là, la deuxième. Ça sert à rien de rehausser la première qu'on entend déjà, qui est déjà en plein dans tes oreilles, que tu entends dans la voix de la personne qui parle. Mais il y a autre chose qui se cache derrière et c'est peut-être ça qu'on veut mettre en avant.
J'avais jamais entendu cette phrase ni même pu la formuler. Mais maintenant que tu le dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. On vit les uns avec les autres, en fait. On a l'habitude de comprendre la première émotion que la personne est en train de nous dire. Et la finesse dans ce travail, c'est de comprendre ouais, les émotions un peu plus en fond, ou prendre le contre-pied de cette première émotion aussi, et pas de faire la superposition entre l'émotion que la personne est en train de véhiculer et la même émotion que tu véhicules avec ton instrumental. De temps en temps, ça marche un peu parce qu'on sait que ça marche, mais vraiment le plus intéressant, c'est de prendre le contre-pied de ça. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Ouais, pour illustrer une différence. Mais c'est un peu ce que tu disais déjà tout à l'heure quand tu parlais du film où il y a une scène triste ou nostalgique et puis tout à coup, il t'envoie les violons. Bon, on avait compris ça, encore, on n'avait pas besoin de ça. Donc autant nous, ouais, soit ne rien mettre du tout, soit mettre quelque chose qui met en valeur un autre aspect de ce qui se passe.
Ouais, et ça, j'ai l'impression que c'est l'expérience aussi qui te permet petit à petit de prendre le risque. Parce que de mettre les violons tristes sur quelqu'un de triste, tu prends pas de risque parce que tu sais que ça marche. Alors que de tenter autre chose, ça peut soit être le flop, soit être le coup de flamme en fait qui va faire que waouh, c'est génial. Donc il y a un risque qui est là à chaque fois, le risque du mauvais goût. Voilà, le risque du mauvais goût, il est là. Il te prend au-dessus de la tête et ça arrive.
Toi, ça t'est arrivé dans tes différents rôles de briefer des musiciens?
Ouais.
Comment tu les briefes au cas par cas? D'abord, est-ce que tu fais appel à plusieurs quand tu as constitué ce pool un peu de musiciens que tu as repéré? Est-ce que tu demandes à plusieurs d'entre eux quand tu as un projet de te proposer des idées et puis ensuite tu n'en retiens qu'un? Et comment ça se passe? À quel moment du développement du projet Est-ce que tu les commences à les mettre à contribution?
Alors, le plus tôt possible, parce que ça prend énormément de temps, en fait, d'écrire un brief, de composer, machin. Donc, en fait, à partir du moment où on a le nom du podcast presque, et qu'on sait de quoi ça parle et qui incarnera, on se lance. En vrai, il y a pas forcément d'interviews qui ont été faites, il y a pas forcément d'épisode 1, mais dès qu'on en sait le plus possible, on se lance. Donc c'est pareil, la personne qui incarne le projet, on lui demande qu'est-ce que il ou elle aime, qu'est-ce que il ou elle écoute, qu'est-ce que il ou elle aime pas. Donc on passe un peu de temps avec la personne pour essayer de comprendre le personnage. Beaucoup de temps d'écoute de la voix aussi de la personne. Si quelqu'un a une voix aiguë, grave, qui prend beaucoup de place ou pas, on aura des indices en fait sur la richesse de la musique qu'on aura envie d'avoir. En parallèle, il y a aussi les gens qui travaillent sur l'identité graphique. Du podcast, et c'est important aussi. Si c'est une identité qui part sur les tons bleutés ou les tons rouges, et ben en fait on a des petits éléments aussi en termes d'énergie. Ouais.
Ah ouais, pour orienter la musique.
Ouais, moi j'aime bien en tout cas lire le brief aussi identité graphique et de voir aussi les maquettes en cours parce que ça me donne aussi. En tout cas, c'est bien que je trouve que l'identité musical et graphique se soit vu au moins une fois ou deux. Je trouve ça chouette. Et après, on écrit un brief. Donc, voilà, c'est un espèce de quiz où je pose des questions. Alors, soit c'est à l'auteur-autrice, soit c'est à moi-même parce que l'auteur-autrice ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Et du coup, bah voilà, je pars de très grand et un espèce d'entonnoir qui se resserre petit à petit. Donc, je me pose des questions sur, alors, quels sont les mots-clés qui définissent le podcast? Donc, c'est quelque chose de frais, pop, actuel, dans l'air du temps, moderne, peu importe. Et après, je viens me dire, OK, quel style musical ira le mieux? Donc, de la musique électronique, pop, la pop rock, ce genre de choses. Et ensuite, j'écoute des artistes que j'aime bien. J'essaie de trouver des références. Et puis, du coup, je commence à me dire quels instruments j'ai envie d'entendre. Je veux absolument qu'il y ait du piano. Par contre, je veux surtout pas qu'il y ait de batterie acoustique. Je veux une boîte à rythme. Voilà. Je commence à me donner des petits éléments que vraiment je sens bien. Donc voilà, un mood, un style musical, des instruments que l'on veut et des références. Donc je me fais une liste de musique actuelle qui existe déjà, de artistes qui marchent bien, même de gens vraiment très très ancrés dans la musique actuelle, peu importe, juste une liste de morceaux qui je trouve iraient bien avec le programme, ou pas juste le morceau. Juste le son de quelque chose à l'intérieur de ce morceau. Par exemple, dans cette musique de Christine and the Queens, la snare, donc le clap, il est trop beau.
D'accord.
Donc, moi, j'ai envie d'une snare qui sonne comme celle-là. Voilà, donc tu viens essayer de trouver des références à droite à gauche et tu indiques des précisions sur la nature des instruments, la texture des instruments, le rythme aussi que tu as envie d'avoir. Et en fait, c'est cette banque de. Donc, c'est ce brief et ces références qui vont être un peu le guide du ou de la compositrice. Et du coup, une fois que j'ai défini mon style musical, je vais m'orienter vers le ou la compositrice qui, je pense, est le plus adapté. Et je lui envoie le brief avec mes références. Et c'est parti pour une V1. T'as demandé tout à l'heure si on demandait à plusieurs compositrices ou compositeurs des essais. En l'occurrence, non. Parce que tout travail est du travail. Donc, il faut qu'on les paye. Et même si à la fin, on ne prendra pas le générique qu'il ou elle a composé, c'est du travail et il faut qu'on paye les gens. Et on est quand même dans une économie, dans le podcast, qui ne nous permet pas encore de faire ça. Jack, on paye pas les compositeuristes comme on les paye dans l'audiovisuel. Ce sont des échelles de prix qui n'ont rien à voir, donc on va pas leur demander du travail gratuit en plus. Donc au moment où on part sur une personne, il faut être sûr que c'est la bonne personne.
Moi, je suis pas du tout musicien, donc je sais pas comment ça peut marcher, mais un compositeur ou compositrice peut partir de juste cet élément-là et se dire, je vais construire quelque chose autour ou je vais construire quelque chose qui va permettre de le placer, ou c'est seulement un guide pour la tonalité, l'ambiance.
Un guide pour l'ambiance, en effet, parce qu'en fait, je vais pas demander à un compositeur de faire exactement ce que j'ai en tête. Autrement, j'ai qu'à le faire, en fait.
Ouais.
Il a aussi une patte, il a aussi un style à lui. Donc, moi, je l'oriente vers ce que je pense, ce qui pourrait être chouette. Mais c'est sûr, en fait, à chaque fois, les compositeurs, ils nous font une V1 où c'est exactement ce que t'as dit, et une V2 où il prend plus de liberté, voire une V3. Par contre, le compositeur ou la compositrice, la plupart du temps, ils te font des propositions. Et en fait, peut-être que tu vas voir que tu avais tort et que en fait, ton son de snare, en fait, c'est mieux avec la proposition que lui ou elle a fait.
D'accord.
Donc, c'est une intuition, c'est une piste de travail pour ne pas laisser le compositeur totalement dans un vide intergalactique de options. C'est plus pour l'aider que de l'obliger, en fait. C'est d'avoir fait le travail de réflexion et qu'il puisse se mettre à jouer, mais c'est pas une obligation, quoi. C'est vraiment une idée. Et puis on en parle aussi, hein, on peut aussi s'appeler, il ou elle peut me dire « Attends, je tenterai bien ça », et on y va, en fait. Il faut qu'on prenne du bon temps, on veut faire des tests aussi, il faut qu'on s'éclate, il faut que... Voilà. Donc c'est pas vrai, c'est pas une grille de taf en mode « Tu dois faire ça ». Ça serait horrible et pas agréable.
Ouais, ouais. Trop contraignant.
Voilà, c'est ça. Faut pas que ce soit contraignant, parce que de contraindre un artiste, ça, c'est fini. Hein. Il fera ça sur le bord d'une table et il fera pas ça avec le cœur, et du coup, ça sert à rien, là.
C'est marrant que tu aies dit dans la même phrase table et cœur.
Non. Je suis totalement aliéné
par ton travail avec Vicente-Sylvie Tortuillon, dont on a parlé. Ben merci beaucoup, Solène, pour toutes ces explications.
Ben, il n'y a pas de souci, avec plaisir.
C'était top, hyper instructif, à la fois sur le rôle de la musique, sur le process de création, sur le process de briefer aussi, donc de l'autre côté du miroir, finalement. Génial, merci beaucoup.
Après, tout ce que je raconte là, c'est sur une base de rien du tout. C'est pas des métiers qu'on a appris, quoi. C'est des métiers qu'on a essayé de fabriquer aussi. Donc, on a commencé ça il y a quelques années. Moi, ça fait 3 ans que je bosse dans ce milieu-là. On ne dit pas qu'on a les bonnes réponses, hein, juste on essaye des choses. On essaye des choses dans un milieu qui nous permet, en fait, d'essayer encore des choses, parce qu'on est, on n'est pas un vieux milieu qui a ses règles depuis des années. Donc, on essaye avec briquet de broc de trouver des manières de travailler les uns avec les autres agréables, quoi, au maximum.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Un grand merci à Nicolas Parodi pour cette interview et à Solène Moulin de s'être prêtée au jeu. Bel été à vous et à jeudi prochain pour la rentrée.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.